Donc nous lisons en Matthieu chapitre 4, versets 17 et suivants, jusqu'à 25. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jusque-là, la parole de Dieu. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, nous donne l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il a appelé ses disciples. À l'époque de Jésus, il était habituel qu'un maître, un rabbi, fasse appel à deux ou trois disciples pour former son école, son groupe, pour propager son interprétation de la loi. Mais Jésus a choisi 12 hommes, 12 hommes ordinaires et obscurs pour devenir ses apôtres. Les 12 disciples n'étaient pas la crème de la société intellectuelle juive de l'époque. Jésus n'a pas choisi selon les critères de ce monde, les riches, les gens bien placés ou les plus malins. Jésus a choisi des gens de Galilée avec un fort accent, des hommes de divers milieux sociaux pour devenir des témoins principaux. Son choix de chaque disciple faisait partie du grand dessein de Dieu. Comment a-t-il su choisir? Selon quels critères a-t-il choisi? Comment a-t-il convaincu chaque homme à tout quitter pour consacrer leur vie à un nouveau maître juif? Quelle formation donnera Jésus à ses disciples? Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus attend de nous en tant que ses disciples? Nous allons répondre à ces questions au fur et à mesure en étudiant le récit de l'appel que Jésus a donné aux pêcheurs galiléens, Simon, Pierre, André, Jean et Jacques. Donc on commence avec la première question. Jésus, comment il a su? Selon quels critères a-t-il choisi? Jésus a commencé à établir son équipe avec les anciens disciples de Jean, Jean le Baptiste. Dans l'évangile de Marc, nous apprenons que André, Pierre, Jacques et Jean ont suivi Jean-Baptiste, le prédicateur poignant. Le thème de la repentance, quand même, était très familier à Jean et aussi à Jésus. La repentance signifie quoi? Un changement de vie radicale ou de faire demi-tour dans la vie. Le prophète Jean-Baptiste prêchait la repentance avec succès et des foules de gens sont venus pour être lavés de leurs fautes dans la rivière. Et Jésus a pu profiter de cette préparation pour continuer à prêcher sur la repentance et le royaume de Dieu. En plus, Jésus annonçait la bonne nouvelle de Dieu, la guérison des malades, liberté aux captifs et surtout le pardon des péchés. Jésus a choisi des hommes non pas à cause de leur personnalité ou leur caractère, mais selon la volonté de son Père. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, nous apprenons que Jésus a passé toute une nuit dans la prière avant de commencer la sélection de ses disciples. Donc on imagine les sélectionneurs de l'équipe de foot féminine quand cette personne, cette dame, j'imagine, a choisi son équipe, elle a réfléchi longuement, elle a pensé à quelles sont les forces et les faiblesses, quel est l'équilibre à garder dans l'équipe, et tout cela joue vraiment. Et Jésus aussi, dans le choix de ses disciples, a réfléchi, il a même prié toute une nuit pour chercher la volonté de son Père. Et donc, seul sur la montagne, Jésus cherchait la volonté de son Père dans la prière. Jésus savait l'importance de cette décision et les conséquences pour la suite de sa mission d'évangélisation du monde entier. Jésus voulait avoir des hommes prêts à se remettre en question, non pas des hommes très pieux ou des familles notables. Et comme Jean a écrit plus tard, mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Ça, c'est une citation de Jean, chapitre 2. Jésus savait que Pierre sera impétueux. Il savait que Thomas demandera des preuves tangibles de sa résurrection. Il savait que ce que communiquera Jean sur la théologie de l'amour divin. Et Jésus a même su que Judas sera le traître parmi ses amis. Jésus connaissait le cœur de ses compagnons. Ceci dit, il voulait aussi opérer le miracle de la transformation de leur vie, et peut-être le plus grand miracle que Jésus a jamais fait. Selon l'apôtre Paul, voici les critères de sélection des premiers disciples. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon le critère humain, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les forts. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Revenons maintenant à notre passage en Matthieu. Jésus a choisi ici 4 anciens adeptes de Jean-Baptiste, 4 Galiléens, 4 pêcheurs de poissons. Ils étaient bien occupés faisant leur labeur lorsque Jésus les a appelés. Deuxième question. Comment a-t-il convaincu chaque homme de tout quitter pour consacrer leur vie à un nouveau maître juif? Jésus savait parler leur langue, l'araméen. Il connaissait leur argot de pêcheur. Il a lancé un défi, un appel, qui sera plus tard accepté comme une vocation. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Nous ne savons pas exactement combien de temps Jésus les a observés avant de lancer cet appel. Certains commentateurs bibliques pensent qu'il a pris 18 mois. Cela n'a pas beaucoup d'importance, que ce soit un mois ou 18 mois ou toute sa vie, et s'il était ami avec ces hommes, ce n'est pas le plus important. Ce que nous savons, c'est qu'ils n'ont pas hésité à répondre « oui » par leur acte. Ils ont quitté leur filet, leur barque et même leur père Zébédée pour devenir disciples de Jésus. Leur obéissance est certainement un exemple à suivre pour nous. Simon-Pierre, André, Jean et Jacques étaient prêts à tout quitter pour suivre et apprendre de Jésus. Pourquoi? Jésus était-il irrésistible dans son regard, dans son appel? Nous savons que d'autres personnes, comme le jeune homme riche, n'ont pas dit oui. Donc il y a d'autres qui ont abandonné Jésus et qui n'ont jamais pris part son groupe de disciples. Nous passons aux troisième questions. Quelle formation donnera Jésus à ses disciples? Dans l'évangile de Marc, nous trouvons les 3 aspects de leur formation. Et ce n'est pas très long, mais les 3 aspects sont premièrement, rester avec lui. Deuxièmement, devenir apôtre ou envoyé. Et troisièmement, avoir sa puissance et son autorité. Les 3 aspects de la formation que Jésus donnait à ses disciples. Premièrement, le plus important pour un disciple, c'est de passer du temps et rester avec Jésus. Au début de cette idée pourrait nous sembler un peu drôle. 12 hommes qui ont quitté leur occupation, leur famille, pour ne rien faire, pour être avec Jésus. Je sais que j'exagère un peu. Ils étaient là avec Jésus pour l'écouter, pour poser des questions, échanger sur tout et rien, pour aider Jésus dans les tâches quotidiennes de son ministère. Par exemple, ils ont aidé Jésus à distribuer les pains et les poissons lors de ce grand miracle où Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec que quelques pains et quelques poissons. Mais ne perdez pas de vue ce premier point important. Pour être disciple de Jésus, il fallait rester avec lui. Et pendant le temps de leur formation, ils ont quitté leur occupation principale pour le suivre. L'Évangile ne nous dit pas qu'ils ont quitté leur famille définitivement. On a quelques indices que les femmes des disciples ont suivi aussi Jésus. Donc je pense que suivre Jésus ne signifie pas forcément quitter les obligations qu'on a comme obligations familiales. Deuxième point, devenir apôtre ou envoyé de Jésus-Christ, c'est un autre aspect de leur formation. Être envoyé comme prédicateur portant un message de liberté, une bonne nouvelle venant de Jésus-Christ. Et leur message n'était pas une question de charisme personnel. Les disciples ont été envoyés, et c'est la racine du mot apôtre, pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Jésus va instaurer bientôt le royaume de Dieu. Repentance et pardon ont été les thèmes centraux de leur prédication. Jésus a envoyé les 12 disciples et aussi les 70 autres apôtres pour annoncer son message de libération et de délivrance. Le troisième aspect de sa formation, c'est d'avoir sa puissance et son autorité. Comment ont-ils fait ces prédicateurs? La plupart n'étaient ni riches ni super intelligents. Les disciples n'avaient pas les ressources personnelles pour mener leur mission avec succès. Et c'est pourquoi Jésus leur a donné son autorité et sa puissance pour faire des miracles en son nom. Une fonction importante de leur ministère était la guérison des diverses maladies et même de chasser des influences démoniaques. Les apôtres ont eu parfois du succès et parfois des échecs, car leur foi n'était pas toujours très forte, très solide. Et après, ils sont rentrés voir avec Jésus comment leur mission s'est déroulée et Jésus leur a corrigé, leur a donné, quand ils avaient beaucoup trop de fierté, nous avons chassé tous les démons et tout le monde a obéi à notre parole. Jésus a dit, attention, il faut se réjouir qu'une personne a été sauvée et pas que vous avez cette puissance. Ou lorsqu'ils sont rentrés après une mission et ils n'arrivent pas à guérir une personne qui était obsédée par ou qui était possédée par un esprit mauvais, Jésus a dit qu'il n'avait pas la foi, il fallait prier et jeûner pour avoir du succès dans les cas semblables. Donc, nous avons ces trois, nous remarquons ces trois aspects de sa formation, rester avec lui, devenir apôtre ou envoyé, et troisièmement, avoir sa puissance et son autorité. Ça soulève peut-être d'autres questions, mais nous avons son esprit en nous. Et après le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit leur a donné un nouveau souffle qui a donné naissance à l'Église chrétienne qui est aussi, nous sommes là, les successeurs de ce mouvement. Nous arrivons au quatrième point, la mise en œuvre un peu de cette méditation. Donc finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus attend de nous en tant que ses disciples? Premièrement, de reconnaître un message universel. Sachant que Jésus a appelé 12 hommes très variés en personnalité, en politique et en arrière-plan spirituel, nous pouvons comprendre que le message qu'il a porté dans leur cœur et par leur vie était pour toute l'humanité. Parmi ses premiers disciples, il y avait des hommes et des femmes de toutes les couches de la société, des esclaves, des officiers romains, un collecteur d'impôts, détesté d'ailleurs par les juifs, un révolutionnaire, des hommes plutôt physiques, manuels, des pêcheurs de poissons, des juifs intellectuels. Le message de Jésus n'est pas exclusif pour l'élite. Au contraire, il est toujours percutant, ayant pour but un auditoire universel. Deuxième mise en œuvre ou application, c'est une réponse définitive à l'appel de Jésus. Avant tout, Jésus attend de nous une réponse claire et définitive à son appel « Suis-moi ». Certes, dans notre cas, son appel est entendu à travers la Bible et à travers notre méditation et nos prières. Néanmoins, les premiers disciples nous donnent l'exemple et nous sommes interpellés par leur réponse. Obéissance sans hésitation. Les premiers disciples n'étaient pas toujours brillants. Au début, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre le véritable sens de sa mission, celle de Jésus. Cependant, Jésus leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils aient finalement l'essentiel de son enseignement. Et Jésus était patient avec eux et aussi avec nous, jusque même quand on a des doutes sur ce message. Les disciples ont eu des doutes jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il est monté au ciel, il y avait quelques disciples qui doutaient. Ça devrait nous encourager, lorsque nous avons aussi des doutes, à surmonter nos doutes et répondre avec une réponse définitive et claire. Troisième point, Dieu fait toujours des miracles. La vie de Jésus-Christ et ses premiers disciples a été entourée de miracles. Tempête apaisée, les boiteux qui couraient, qui sautaient de joie, un enfant ressuscité, etc. Pendant un temps, l'Église vivait dans la foulée de ces miracles. Elle a grandi dans le soleil de l'arrivée de son royaume spirituel. Maintenant, nous pouvons dire sans équivoque que notre Dieu est toujours un faiseur de miracles, car Jésus-Christ est en train de transformer nos cœurs. En tant que ses disciples, nous allons nous soumettre à ce processus de transformation spirituelle. Ça s'appelle la sanctification. En demandant chaque jour que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs et nous donne discernement et sagesse pour marcher selon sa volonté. Et la dernière piste pour la mise en œuvre, c'est la transmission, la propagation du message. En conclusion, en tant que ses disciples aujourd'hui, nous sommes toujours ses apôtres ou ses envoyés spéciaux. Jésus nous envoie pour propager partout son message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Vous êtes bénis pour devenir une bénédiction aux autres. L'école des disciples de Jésus n'est pas exclusive, comme une secte ou pour l'élite. Le message de Jésus n'est pas un coffre à trésor à cacher quelque part dans le jardin secret de notre vie privée. Non, loin de là. La relation personnelle que nous pouvons avoir avec Jésus est plutôt comme une boîte de musique à ouvrir selon la direction du Saint-Esprit et à partager avec d'autres. Ceci présume que nous prenions régulièrement le temps de rester avec Jésus, parfois seul, parfois un petit groupe de chrétiens. Le temps que nous prenions à lire et à étudier la Bible n'est jamais perdu si nous sommes prêts à vivre et transmettre son message à ceux qui nous entourent. Amen.